intitulé, pardon, Why Blues. 43 71 89 40 sur Radio Libertaire 89.4. C'est la radio de la Fédération anarchiste, Urbi comme Urbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Ben, on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Ben, Isabelle Simon.
Bonjour.
Une belle carrière que vous avez depuis que vous venez ici. Hein.
Voilà, merci.
D'accord. Juste pour douter. Il faut saluer Monique en cabine. Hein.
Et bonjour à Monique.
On peut rien faire sans Monique. Parce qu'elle est en même temps les cadres formateurs. Elle fait tout, Monique, ici. Hein. Voilà, il faut faire attention. Bon, on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause. L'émission qui peut, j'ai déjà dit, qui peut faire défaire les carrières à loisir. Alors, la dernière émission que nous avons faite, c'était à propos de la sortie du numéro 8 de In Toto. Alors, je vais vous dire un grand secret. J'ai fait l'émission sans avoir vu la revue, puisque la revue n'était pas sortie, et c'est pas facile à faire. N'empêche, on s'en est bien sorti. In Toto est paru, ça y est, là. Donc, ce sera une bonne occasion pour y revenir. Je sais qu'il y avait un rendez-vous à la Halle Saint-Pierre qui a été déplacé. Ce sera, espérons-le, en septembre. Donc, on va faire l'émission en deux parties. La première partie, j'ai une petite intervention à faire. Et la seconde partie, vous allez vous en occuper, vous qui êtes si critique envers Onde de Choc. Voilà, c'est vous qui allez vous en occuper, Isabelle Simon. On s'était quitté la dernière fois. Alors, je voulais faire une émission comme ça, au hasard, une petite introduction au hasard. Je vais être très rapide car vous avez beaucoup de choses à nous dire. J'avais décidé de faire une intervention sur Léo Mallet. Léo Mallet, tout le monde le connaît, c'est l'homme qui a publié, qui a écrit Nestor Burma. Mais en 1934, il a écrit des poèmes surréalistes qui sont absolument surprenants. Il est passé par le trotskisme, il est passé par la main à plume, qui était le surréalisme révolutionnaire pendant les années noires, comme ça. Et plus tard, il a très très mal viré, puisqu'il a viré vers l'extrême droite et le racisme. C'est là qu'on lui doit des phrases exemplaires du style « Lorsqu'il y a du rasif dans l'air, l'arabe n'est pas loin ». Au niveau de l'élégance, on peut faire un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, je ne sais pas ce que c'est que le rasif.
Donc... Le rasif, vous savez pas ce que c'est?
Ah, non, dites-moi.
Le rasif, un rasoir.
Ah, ben oui, ben je ne savais pas.
Alors, c'est bien, vous êtes venu pour apprendre des choses. Donc, j'avais décidé comme ça de partir au hasard, et puis le hasard est là. Donc, je ne vous parlerai pas de Léo Mallet, ce sera pour plus tard, bien que il a cette phrase, lorsqu'il y a du rasif dans l'air, l'arabe n'est pas loin, ce n'est pas très élégant, je réitère. Je me promène au Père Lachaise, comme ça, et puis je passe devant la tombe d'Henri Curiel. Henri Curiel qui est un peu oublié. C'était un militant anti-colonialisme qui s'est fait tuer à Paris en 1978 d'ailleurs. Il s'est fait assassiner. On n'a pas retrouvé ses assassins dans la grande pratique des assassinats d'extrême droite. Hein, il y a eu Pierre Goldman, etc. On ne les retrouve pas comme ça. Pendant la guerre, c'était la cagoule qui faisait ça, puisque les frères Rosselli se sont fait tuer par la cagoule en 37, je crois, en Normandie. Donc je passe devant, comme ça, il y a des choses qui se passent, et je dis, je ne parlerai pas d'aller au balai, et puis au courrier, comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Je reçois lettre de 7, signée Mohamed El Kibir, qu'on connaît ici puisqu'il est sur Radio Libertaire, il fait plein d'émissions sur Radio Libertaire. Bref, histoire de la libre pensée arabe. C'est quand même un sujet qui est intéressant, vu qu'avec tout ce qu'on nous montre du monde arabe, tout ce qu'on nous montre de l'islam, etc., on finit par croire que ce n'est que des bombes, que des terroristes, etc. Quand on donne la parole, à un Tariq Ramadan. Je ne sais pas si ça vous inspire, Tariq Ramadan.
Il me semble qu'on ne lui donne plus beaucoup la parole, ce qui est pas mal.
Il est en taule pour viol, ça doit être ça, non ? Il est en prison pour viol.
Probablement, oui.
Voilà. Mm-hmm. Moi, je l'avais entendu, j'avais trouvé ce passage. Les ennemis sont parfois intelligents, extrêmement intelligents. Un jour, j'ai fait une émission avec une féministe, ça m'arrive de temps en temps, qui était là, et qui s'était trouvé à la tribune avec Tariq Ramadan. Et je lui dis, mais comment vous en êtes sorti ? C'est très difficile, tellement c'est un serpent qui est comme ça. Donc, effectivement, Mohamed El-Kabir nous montre dans cette lettre-là, brève histoire de la libre pensée arabe, qu'il y a à fond, il y a toute une pensée matérialiste qui existe, toute une pensée athée qui demeure dans les pays arabes. Hein? Même si ça ne transparaît pas, même... ne pas le croire, c'est avoir une méconnaissance historique, dans le sens où en 1980, environ, j'arrondis tout ça, il y avait à Paris le Désir libertaire qui était publié. Le mot libertaire n'a pas le même sens en arabe qu'en français, d'ailleurs. Il y a un sens de plaisir dans le mot libertaire. Là, ce Désir libertaire qui a été créé, entre autres, par Abdelkader El-Janabi, il y avait un Libanais, il y avait un Syrien, il y avait un Algérien. Effectivement, ils se sont tournés vers l'école de Francfort, quand même une école au niveau philosophique très matérialiste. Voilà. Et donc, il y a cette preuve-là. Donc, c'est complètement fallacieux de dire qu'il n'y a pas une pensée matérialiste ni athée dans le monde arabe. Si on remonte dans le temps, comme ça, il y a ce groupement Art et Liberté en Égypte qui a été créé. On trouve Georges Hénin, on trouve Ramsès Younam. Je crois que c'est en 38, peut-être arrondir là, qu'ont été les premiers à dire « Vive l'art dégénéré ». Et donc il y a cette lettre, si on peut se la procurer, vous tapez lettre de 7. Mohamed El-Kabir, il y a plein de choses à se dire, comme ça, là je vais très très rapidement. N'empêche au niveau de l'humour, il arrive, et il serait peut-être bon de le faire, puisque nous on l'a fait, on a rendu plusieurs fois hommage à Sylvain Maréchal. Sylvain Maréchal en 1800 écrit ceci, « Arabe, cette nation spirituelle compte beaucoup d'athées, et répond parfaitement à ces demi-philosophes qui prétendent que l'athéisme éteint toute imagination. » Voilà, on peut être matérialiste et avoir un imaginaire très riche. Ça veut dire en gros tout ça. Ça vous paraît, non ? Ça vous paraît contradictoire ?
C'est évident, de toute façon, on n'a pas d'autre choix.
Bien sûr. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu autre chose au niveau du hasard. C'est que Monique ne le sait pas, mais je vais lui dire, Radio Libertaire, dans sa partie la plus décisive, m'a accrédité un billet de train pour aller à Varsovie ce week-end. Donc je suis allé à Varsovie ce week-end. Je suis rentré vite fait parce qu'on m'a pas payé l'hôtel. Alors c'est comme ça, je voulais un hôtel 4 étoiles, ils me l'ont refusé. J'ai fait l'aller-retour. J'étais très pressé de vous voir, Isabelle, et puis de voir Monique aussi. Là, j'ai fait ce saut à Varsovie où il y a une exposition. Et cette exposition, c'est, en fin de compte, on peut le résumer comme ça, comme quoi le surréalisme est un élément politique. On nous rappelle que le surréalisme est un élément politique, ce qu'il a été au départ, derrière. D'ailleurs, changer la vie, transformer le monde, Marx et Rimbaud, c'était là-dessus. Donc on est très loin de tout l'occulte ou le mysticisme dont on essaye de lui accoler actuellement. La dernière fois, sur Radio Libertaire, j'avais révélé... une carte postale où on voyait un évêque gnostique qui était en pleine cérémonie. Et au dos, on avait réussi à récupérer une phrase de Benjamin Perret, parce qu'il y avait le mot Dieu à l'intérieur. Donc, en tout cas, brusquement, Benjamin Perret était douteux quant à la religion. Pas du tout. Benjamin Perret a été se battre en Espagne. Il était athée. Il était matérialiste. Il est resté proche des syndicats de l'imprimerie, si je ne m'abuse. Donc, on peut pas faire ça. Donc, cette exposition qui a lieu, je ne sais pas, il faut vous renseigner, hein, au Muséum d'Art Moderne de Varsovie, nous rappelle combien le surréalisme est anti-colonialisme, anti-impérialisme, anti-fascisme, et c'est d'une des grandes clés du surréalisme. Et si on regarde bien toute l'histoire du surréalisme, que ça aille de l'exposition coloniale du début du siècle, en passant par le manifeste des 121, puisque c'est Jean Schuster qui l'a initié, ça demeure un mouvement matérialiste et politique. Et athée. Et un des meilleurs textes d'ailleurs à voir là-dedans, et je le rappelle, c'est quand même le texte d'Aimé Césaire, discours sur le colonialisme, qui est une splendeur à tous les niveaux. Il fait une chose, on est en 50, hein, il fait une chose au niveau politique qui était difficilement admissible, surtout qu'il est petit député noir à l'Assemblée. Il arrive, il s'en prend à la bonne culture française, et il n'hésite pas, il compare le colonialisme à l'hitlérisme. Il y va. Bon, là, alors on en pense qu'on veut, la pilule passe pas très bien à l'époque. Et hier, sur Public Sénat, ils ont retransmis le procès de Klaus Barbie. Très intéressant. Mmh. Effectivement, c'est Maître Vergès qui prend la défense de Klaus Barbie. Alors, comment on peut le faire? On n'en sait rien. Il dit des choses, là, je vais vous faire plaisir, immondes sur les femmes. Maître Vergès, des choses immondes sur les femmes. Oui, c'est absolument indéfendable, etc. Mais...
Même pour vous.
Moi, je me suis tâté très longtemps.
J'ai pas pu l'empêcher.
Non, mais je sais que vous pouvez empêcher. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. J'adore les langues de vipère à un micro. C'est un plaisir,
merci.
Pour moi. Ça me fait venir une érection, je tiens à vous le dire. Ceci dit, effectivement, les gens n'ont pas noté, parce que la gauche est complètement illettrée, qui reprend le grand thème d'Aimé Césaire en comparant le colonialisme au nazisme. Et c'est pour ça que dans sa dernière plaidoirie, Maître Vergès, il est au milieu, comme ça, il fait venir un avocat algérien, un avocat congolais, il fait cette démonstration, comment on peut condamner le nazisme, alors qu'on a été des coloniaux, alors que le colonialisme n'est pas mieux. Bon voilà, c'est très intéressant, et c'est surtout très d'avant-garde, parce que ce qu'on n'acceptait pas en 87, c'est rentré maintenant dans une forme de réflexion. Bon, ceci, je sais que j'étais un peu long, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire, même des réflexions un peu pernicieuses, Elisabeth Simon, c'est pas grave, allez tous à Varsovie voir cette exposition, hein, pourquoi le surréaliste est matérialiste et athée avant toute chose, dans son historique. Mmh. Voilà, on va écouter un peu de musique et après vous prenez le micro.
Ah oui, d'accord.
Vous voulez bien faire comme ça?
Ok.
Un peu de musique. Thank you. ben je parlais au 01 43 71 89 40 et merci Monique. Je parlais de la suite de hasard qui a fait que j'ai choisi d'intervenir comme ça et somme non acmé du hasard, je vais dans une boîte à livres, je fréquente beaucoup les boîtes aux livres, c'est très très bien et je tombe sur un livre de Jean-Marie Pelt, Le langage secret de la nature. Je regarde, je le trouve en exergue, et comme Mohamed El-Kébir, dont nous venons de parler, ces brèves histoires de la libre pensée arabe. Et je trouve en exergue du livre de Jean-Marie Pelt, Les langages secrets de la nature, sur la libre pensée. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toute chose ? Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Et là, c'est Gérard de Nerval. C'est les chimères. Et c'est vraiment un des préambules à ce que Breton va appeler les grands transparents. C'est-à-dire que toute une recherche qui vient très tôt sous sa plume, d'ailleurs, comme qu'entre vous et moi, Isabelle, il y a des êtres qui se promènent qui ne sont pas de l'occulte, qui ne sont pas de la mystique, mais qui se promènent comme ça, et c'est exactement ce que raconte Nerval et ce que va reprendre André Breton. Bon, alors maintenant, on a écouté ce morceau de musique là, c'était quoi ? C'était les Rita Mitsouko.
Alors c'était les Rita Mitsouko, ouais. Et donc mine de rien, sur un air joyeux, c'est une chanson qui raconte les trains de la déportation. Puisque le père de Catherine Ringer, donc d'Erita Mitsouko, a connu la déportation, a connu ses trains. Et donc c'était une petite salutation, guillerette, mais pas tant que ça, pour certaines femmes qu'on va rencontrer dans le recueil de Christophe Dauphin. Et puis également dans d'autres textes dont je parlerai un peu sur des, enfin, un peu en dehors du recueil, mais qui le rencontrent quand même.
Pour un soleil de femme 2. Voilà. Hein, publié aux Hommes sans épaules. Alors, je crois que vous l'avez lu avec beaucoup d'attention.
Ah, mais j'ai des preuves, regardez.
Vous avez marqué, annoté, etc. Il sera difficile à revendre après, d'ailleurs.
Je pense.
Moi, j'avais fait 2-3 interventions, mais je n'avais pas eu le temps. Donc, une sur Elodia Turki, dont le fils est encore en prison en Tunisie, c'est ça ?
Kayam Turki.
Oui.
Alors, l'ouvrage de Christophe Dauphin, qui est extrêmement, enfin, c'est une mine, hein, ça fourmille de renseignements, tant biographiques que concernant les œuvres des femmes qui sont présentées. Donc, son livre s'ouvre justement sur l'évocation d'Elodia Turki, qui est une figure importante au sein des Hommes sans épaules. Au sein également de la galerie Librairie Racine, dans laquelle vous trouvez toujours des livres de poésie.
Et du pinard.
En plus, que demande-t-on ?
C'est pour ça que vous le fréquentez d'ailleurs, Isabelle Sy.
Et aussi des petits livres de philosophie pour les enfants. Et donc on trouve aussi les œuvres de Frédéric Tison, au passage, qui est un grand poète récemment disparu.
Vous faites toujours des interventions à Romainville, au fait ?
Toujours,
oui. Et avec toujours les mêmes, chez Hervé Pavézé, Frédéric Tison et tout.
Alors,
ça ?
Alors je change à chaque fois, puisque j'ai un noyau dur, mais j'ai aussi des gens nouveaux qui viennent se greffer à chaque fois. Donc je fais toujours des choses différentes.
C'est avec des gens qui viennent d'horizons différents.
Alors oui, cette année c'est extraordinaire, puisqu'on a toujours les gens qui viennent d'Afrique du Nord, beaucoup. Des gens qui viennent d'Afrique, du Soudan notamment. Et puis de façon exotique, une Irlandaise, un Argentin, deux Brésiliens. On a aussi un Palestinien, enfin bon... Et puis une Roumaine, enfin bon, moi je trouve que c'est merveilleux la façon dont tout ce monde-là cohabite, voilà, et se livre à la poésie très volontiers.
Donc ce livre, c'est pour un soleil de femme 2, s'ouvre sur Elodia Turki.
Voilà, Elodia Turki, dont Christophe Dauphin évoque la mère, hein, qui était la Chiqueta, donc une figure de la guerre d'Espagne. Et donc Elodia Turki est née en 1939. Elle est née dans un camp de réfugiés espagnols, républicains et anarchistes. Elle reste avec ses parents en Tunisie. Elle va poursuivre l'engagement politique qui fut le leur. On la retrouve Miss Tunisie, parce que il faut dire qu'elle est très belle également, et puis championne olympique l'année suivante, en 60, donc elle a vraiment un parcours très éclectique. Elle écrit, bien sûr, elle écrit des poèmes, et puis elle est publiée ensuite aux Hommes sans épaules, à la Galerie Racine, et donc il y a quelques, enfin il y a des textes qui sont proposés d'elle. Alors je peux vous citer par exemple en 2015, c'est à la page 39 hein, du livre, la mer dessinée par ma soif portera mes vaisseaux, tout sera car je suis fantastique animal, enfant illégitime d'une grotte et d'une étoile. Sa main, la tienne, telle une ombre jalouse, dans la fleur innombrable de ma peau, peut-être qu'il suffit que la lenteur des yeux épelle enfin le trouble, pour que pour toujours soit l'improbable partage. Donc, texte poétique, dont on prend connaissance ici. Et comme vous le disiez, donc, son combat politique.
C'est le terme. Ce qui vous a plu, en fin de compte, j'ai bien compris ce que vous me racontez, c'est pas facile.
Merci encore une fois.
Pour un soleil de femme 2, c'est le rapport poésie et politique de ces femmes, non, en
oui,
général.
C'est-à-dire qu'elles sont toutes dans un engagement, donc que ce soit sur un plan littéraire, sur un plan politique, ou bien des deux manières. Et donc, elles, hein, comme vous l'avez dit, son fils Kayhan Turki poursuit son combat. On sait qu'il est en prison en Tunisie actuellement et je crois qu'il a pris 48 ans de prison pour s'être opposé au régime en fait. Voilà. Alors, je vais malheureusement aller à grands pas à travers ce recueil parce qu'il est extrêmement fourni.
Allez-y, une petite parenthèse, puisqu'il faut quand même être cohérent sur Radio Libertaire, là, puisqu'on a commencé avec Mohamed El Kébir, Brève histoire de la libre pensée arabe, là, il y a des... C'est, je crois que c'est Amnesty International, une chose qui a révélé que l'homosexualité, ça faisait pas bon être homosexuel dans les pays arabes ou dans les pays noirs, je sais pas si vous avez ça, soit on est condamné à mort, soit c'est l'amputation, soit c'est le bâton. Mmh. Voilà, c'est...
Et ça vous a choqué?
C'est pas choqué, c'est quelque chose qui est, oui, je sais pas, c'est pire que ça.
C'est pire que ça,
on va revenir, bien sûr.
Oui, donc elle, bien sûr, montre un aspect tout à fait, enfin, qu'on ne rencontre plus aujourd'hui, qui n'est plus autorisé aujourd'hui, hein, bien sûr, comme toutes les femmes qu'on va rencontrer dans le recueil.
C'est exactement ça, oui.
Alors, je vais à grands pas. Il y a également une évocation d'une femme qui était plus connue, je pense. Il s'agit de Madeleine Riffaut.
La magnifique.
Voilà. Ouais. Qui s'illustre quand elle a 19 ans en tuant un officier allemand dans la rue. Donc à la suite de ça, elle est emprisonnée, elle est torturée. À la libération, elle se trouve un petit peu en déshérence, comme beaucoup de jeunes de cette époque qui se sont trouvés finalement en butte à une certaine solitude. Je pense notamment à Marceline Loridan-Ivens, hein, qui était la compagne de Joris Ivens, qui avait aussi songé au suicide à ce moment-là, bon, avant de vivre aussi une longue vie. Madeleine Riffaut va rencontrer Paul Éluard, qui va reconnaître la qualité de ses textes poétiques. Elle va entrer au journal L'Humanité. Elle devient journaliste et puis elle va couvrir la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Elle va connaître une grande passion amoureuse avec le poète vietnamien Nguyen Dinh Thi. Passion amoureuse qui va durer 50 ans. Et puis, elle continue également le combat aussi dans le quotidien, puisque en 1973, elle est recrutée au sein des hôpitaux de Paris. Elle va écrire, enfin, on a son témoignage dans Les Linges de la Nuit. Alors, Les Linges de la Nuit, c'est publié en 1974, mais il y a une édition augmentée après le Covid qui témoigne justement des conditions invivables, en fait, qui sont celles des personnels hospitaliers, en fait. Hein. On la retrouve aussi, toujours protestant, mais cette fois-ci côté patiente-impatiente, hein, puisque quand elle sera une très vieille dame, elle va passer 24 heures dans les couloirs des urgences.
Ça, c'est de l'humour, elle est restée sur un brancard.
Elle est restée sur un brancard sans boire ni manger. Pendant 24 heures.
Et sa fin de vie n'est pas terrible, puisqu'elle avait une dame qui s'occupe d'elle. Et la dame va se faire escroquer.
Oui, parce qu'elle est aveugle, en fait. Et puis, elle fait confiance, quoi.
C'est une vie magnifique. Et pour qui connaît la gueule de Madeleine Riffaut, elle conserve un visage d'enfant très, très, très longtemps.
Mmh, tout à fait. Et elle se dit... Alors, elle se dit résistante. Bon, nous, on dirait plutôt maintenant résistante. Mais jusqu'au bout, quoi. Elle ne veut pas être considérée comme une victime. Et donc, dans sa dernière étape, hein, elle dit qu'elle porte la voix de ceux qui n'en ont pas, parce que dans les hôpitaux, bien sûr, elle a vu des gens qui n'avaient aucun pouvoir, qui n'étaient pas connus, voilà.
Petite parenthèse, si vous permettez, Isabelle, c'est qu'on a commencé par l'aspect politique du surréalisme. Dans le surréalisme, qui reste politique durant toute son histoire, il y a Aragon qui devient stalinien, il y a Éluard qui devient stalinien, il y a Vaillant qui était du grand jeu, qui va devenir stalinien. On a une interrogation là-dessus, on ne peut pas y répondre. Comment ces gens-là qui viennent de la liberté même vont tourner, comment l'histoire les fait tourner comme ça. Et on tombe même sur votre ami Drieu La Rochelle, qui n'est pas surréaliste, mais qui tourne, on le trouve, ami Jacques Rigaud, qui tourne dans le mouvement Dada, comme ça, comment il va finir au PPF, au parti fasciste français. Voilà. Alors, c'est une interrogation, c'est une parenthèse continue, je ne veux pas vous troubler.
En concernant Aragon et Éluard, c'est peut-être pas la meilleure partie de leur œuvre au moment où ils entrent au Parti communiste.
Oui, mais ils le font, attention. Ils le font.
Oui, mais je crois que c'était par souci d'efficacité.
Je ne voudrais pas faire ça, mais parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Il y a une interview d'Aragon sur Europe numéro 1 dans les années 70, où il est directeur des lettres françaises, il est la grande star du Parti communiste, où il dit « Je suis demeuré surréaliste ». Et on ne sait pas comme ça. J'avais Yves Buin un jour, j'avais parlé de ça d'Yves Buin au micro. Il me dit, il ne faut pas exagérer non plus. Parlez-y, excusez-moi, c'est une parenthèse.
Mais ça relève de la contradiction
dont on parlait récemment. Donc, voilà. Vous voulez parler de ce sujet qui m'intéresse dans cette série. Pour un seuil de femme numéro 2, cette poétesse femme, c'est ça? Non? Ah, vous préférez ça, allez-y.
Alors, avant, je parlerai des femmes, évidemment. Auparavant, je souhaitais faire un écart hors du recueil pour évoquer une dame qui s'illustra également dans la résistance et qui vécut aussi centenaire puisqu'elle est morte en 2025. Il s'agit d'Alice Mendelssohn et donc on la rencontre grâce à Catherine Ringer. Et alors je vous parlais de rencontres complètement incroyables. Alors c'est pour ça qu'en début d'émission, on a passé le petit train d'Erita Mitsuko. Il se trouve donc que le père de Catherine Ringer, qui était Sam Ringer, qui était un peintre, a été déporté et a connu ses trains. Alice Mendelssohn, elle est adolescente, hein. Elle échappe à la rafle du Veldiv en 42. Son père, lui, part à Auschwitz auparavant et ne reviendra pas. Il est dénoncé par un collègue coiffeur qui lorgne sur la clientèle. Alice Mendelssohn, elle sera sauvée par la femme d'un gendarme qui sait qu'il va y avoir la rafle du Veldiv et qui choisit de les sauver, elle et sa mère, enfin de les prévenir en fait. Et alors ce recueil donc qui est proposé par Catherine Ringer, finalement rassemble des textes qu'Alice Mendelssohn a écrit toute sa vie. Ça part à partir de 47, certains ne sont pas datés, et ça va jusqu'à sa mort, quasiment jusque dans les années 20, et ça témoigne d'une vitalité, d'une joie de vivre totalement extraordinaire. Alors comme je ne vais pas pouvoir vous lire beaucoup de textes, je vous donne quand même quelques titres, parce que ça donne une idée un peu du personnage. Alors il y a un poème qui dit « Je ne suis pas à voir, je suis à sillonner ». Il y a un autre poème, alors le titre est très drôle, elle écrit ça en 47 hein, quand même. « À l'homme l'échable qui fut et sera passé au tamis de la langue
». Et ce sont des textes érotiques?
Alors c'est très beau, c'est plus que ça, en fait c'est des textes amoureux, donc ça va au-delà, quoi. C'est vraiment, c'est de la vitalité, c'est de, comment dire, de la joie pure, et jusqu'à la fin de sa vie finalement, elle savoure dans ses années de centenaire y compris. Je peux vous lire peut-être celui qu'elle écrit à 97 ans.
97 ans.
Elle n'écrit pas des textes longs en plus. Hein. Alors, depuis 40-44, ne pas avoir été prise, pouvoir encore penser à mon père, donc, qui n'est pas revenu, et à tous les amis restés en enfer, pour eux tous, être encore là, être en vie, vivante à vivre, sur le socle de ma tête, ni mémoire, ni mots. Mais ce soir, c'est la fête, j'adore encore et encore vivre, être vivante, en vie. Le souffle d'Auschwitz, souffle et sourire, peuvent aussi avoir valeur de revanche. Donc elle écrit ça entre 2022 et 2023, donc elle garde tout ça en tête, et néanmoins, elle a choisi donc cette énergie.
Catherine Ringer a fait un un spectacle.
Alors, Catherine Ringer, j'y viens. Donc, il se trouve que Alice Mendelssohn a cherché des traces de son père, bon, qui n'était pas revenu. Elle rencontre, au cours d'une exposition dans les années 82, elle rencontre Sam Ringer. Et qui lui parle finalement de ses conditions qu'a connues son père. Il se trouve que Alice Mendelssohn était professeure de lettres et elle intervient à un moment donné dans la classe de la deuxième fille de Catherine Ringer, Ginger Ringer, et elle lui dit mais ton grand-père c'était Sam Ringer, etc. D'où rencontre avec Catherine Ringer qui est ravie bien sûr de faire sa connaissance, d'où ce recueil, d'où le spectacle L'érotisme de vivre, et Alice Mendelssohn a eu la joie d'y assister deux fois en fait, avant de mourir. Et Catherine Ringer reprend ce spectacle, alors ne ratez pas, le 10 octobre prochain à la Maison de la Poésie. Allez vite prendre vos places parce que je ne céderai pas la mienne.
C'est chanté.
Alors c'est lu, mais c'est lu avec de la musique.
Vous savez ce qu'on va... Excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'organiser en cabine. On va passer un peu de musique et on va reprendre après. D'accord? Ça vous va? Comme
si
ça,
parce
qu'il fait très chaud, je vous ai prévenu.
Oui,
hein.
Oui.
Je ne veux pas que Monique finisse sur le carreau.
Alors en plus, c'est très beau, c'est le courage des oiseaux, me semble-t-il.
Oui, c'est ça.
Qui concerne tous les recueils qu'on a là.
C'est ça.
Fini mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors c'est ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Merci à
01 43 111 89. Un peu de 40, un peu de sérieux en cabine, Monique. Ça n'a jamais rien, jamais nuit à une bonne émission. Je tiens à vous le rappeler. Bon, alors, et oui, effectivement, on va parler de forme, on va parler de langage, etc. Là. Il y a toujours cette exposition à voir à Varsovie. effectivement, il nous explique bien que lorsque Bellemare fait cette poupée, Bellemare qui va fuir bien sûr l'Allemagne nazie, il fait cette poupée qui se disloque avec ce corps qui est un corps, c'est pas un corps qui correspond à l'idéal corporel nazi. Et c'est bien expliqué comme ça, comme quoi le surréalisme passe par la peinture, passe par la poésie, certes, mais n'est pas que peinture et poésie. Hein. On est parti sur le... Lorsqu'ils disent très tôt comme ça, il faut aboutir à une nouvelle réinvention des droits de l'homme. Ils disent pas du citoyen, faut pas se... Les gens font des erreurs comme ça. Mais des droits de l'homme, c'est ça. C'est-à-dire que chaque geste qu'on fait est un geste qui doit intervenir politiquement. Lorsqu'il y a ce massacre à Charonne, en 62, je sais pas, ça vous inspire, 62, Charonne, la manifestation contre la guerre d'Algérie, ils s'engouffrent dans le métro, ils sont écrasés, il y a des morts, il y a 8 morts, c'est une grande manifestation à Paris, etc. Le peintre Matta fait une peinture sur Charonne. C'est-à-dire, il y a toujours un contact avec le politique et l'histoire. Hein, il faut absolument jamais que le surréalisme, à moins de tomber dans une succursale de la bourdieuserie, etc. Voilà, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire. Et comme c'est pour ça que j'ai une grande sympathie pour les Femmes, pour leur théâtralité. Je les ai vus dans les manifestations. Et c'est le style. C'est le style parce qu'elles enlèvent leur. Elles sont poitrine nue, personne n'intervient de façon grossière.
Sauf la police,
comme etc. Il y a une espèce de théâtralité qui rentre là-dedans. Et il y a. Je crois que nous avons correspondu par SMS ou par mail sur le sujet lorsque cet abruti de Darmanin, qui n'est jamais venu sur Onde de Choc, là, a interdit cette manifestation devant le ministère de la Justice, là. La manifestation a quand même eu lieu, elles sont venues, elles se sont déshabillées dans un rituel absolument parfait au niveau de la théâtralité.
Et vous y étiez ?
J'y étais pas, j'ai vu ça sur un écran, malheureusement, mais je trouve ça absolument, ce rapport au corps et au langage, au niveau politique, c'est absolument superbe.
Donc voilà. Vous avez dit, et alors donc, Christophe Dauphin évoque justement les Femmes dans son œuvre, à travers bien sûr leur fondatrice Oksana Shashko, donc qui crée les Femmes en 2008 en Ukraine. Au départ, c'est un mouvement qui s'élève. Bon, elles sont trois hein, au départ, et donc elles s'élèvent contre le développement de la prostitution en Ukraine. Leur slogan, c'est l'Ukraine n'est pas un bordel, justement. Et Oksana trouve cette façon de marquer les esprits, hein, de se dénuder, de se montrer torse nu. Puisque le corps de la femme est subversif. Hein. Donc, il y a cette façon hein, de se camper de manière guerrière, en fait. Et alors, elle est réfugiée à Paris en 2013. Là, disons qu'elle va perdre un peu de... Elle perd la sève, finalement, les racines du mouvement. Elle se reconnaît plus tellement dans ce que ça donne du côté de l'Europe. Elle trouve que ça perd en énergie. Et elle se tourne à nouveau vers les icônes, mais elle peignait des icônes au départ, hein, traditionnelles, et puis elle fait des icônes subversives, donc dans lesquelles on voit des apôtres avec du vernis à ongles, on voit un Christ féminin, bien sûr, une pêche miraculeuse, et dans les filets, ce sont des mains, donc des mains de réfugiés qui se noient en Méditerranée. Elle perd peu à peu elle-même son énergie vitale. Elle va finir par se suicider en 2018 à 31 ans. On la voit, alors si vous voulez la voir, on la voit dans un documentaire sur l'ami qui l'avait recueilli, enfin qui l'hébergeait à Paris, qui est la jeune peintre Apollonia Sokol. Et il y a un documentaire qui est sorti en 2023, Apollonia. On voit donc Oksana en arrière-plan, qui devient de plus en plus transparente finalement, et qui finit par se perdre dans cette Europe qui ne lui apporte pas suffisamment de... Enfin, qui correspond plus aux idées qu'elle souhaitait promouvoir, disons. Et elle ne se reconnaît plus non plus dans le mouvement que deviennent les Femmes. Alors, On trouve aussi, toujours dans le recueil de Christophe Dauphin, l'évocation d'une poète. Alors, on peut dire poète parce que c'est un mot épicène, hein, masculin et féminin, ou poétesse parce que, comme quand un mot se féminise, il se dévalorise. Moi, j'ai un petit peu envie de dire poétesse aussi, de même que féministe, finalement, a été accepté, alors qu'au départ,
facteur
c'était une injuste.
Factrice aussi.
Ah, je pense qu'il y avait déjà factrice au départ, hein, vous savez bien. Mais bon, alors, donc, poète ou poétesse, Christophe Dauphin dit poète, donc voilà. Donc, il y a cette poète-poétesse extrêmement populaire en Iran. Je vais sûrement mal prononcer. Farouk Farrokhzad, née en 39, elle meurt accidentellement en 67, et donc sa poésie est extrêmement sensuelle, charnelle, bien sûr inaudible aujourd'hui en Iran. La comédienne magnifique Golshifteh Farahani l'a lu magnifiquement sur Arte. Alors moi je veux bien vous le lire moins magnifiquement si j'ai le temps, mais du coup vous vous reporterez à Golshifteh. Mais non, c'est pas là, c'est dans l'autre qui est là, voilà. Parce que vous avez aussi ses œuvres complètes en poésie Gallimard, si vous allez à la librairie Utopiran, qui se trouve dans le quartier de la rue des Entrepreneurs, le quartier iranien de Paris. Alors, j'ai péché, jouissance inouïe, dans des bras de feu enflammés, j'ai péché, oui. J'ai péché dans des bras de fer brûlants qui me cherchaient, rancuniers. Dans ce lieu solitaire, sombre et silencieux, j'ai regardé ses yeux débordant de secrets. Dans ma poitrine, mon cœur impatient a tremblé des désirs suppliants de ses yeux. Dans ce lieu solitaire, sombre et silencieux, je me posais troublé à ses côtés. Ses lèvres, sur mes lèvres, ont versé le désir du poids de mon cœur fou. Je me suis libérée. Bon, je lis seulement cet extrait. Vous irez voir la suite. Vous achèterez le recueil entier à la librairie Utopiran. Au passage, on peut aussi saluer, hélas, la mémoire de Marjane Satrapi qui a choisi. Voilà.
Alors, j'espère que vous avez revu ou vu ou que vous connaissez ce film.
Mais oui, je le voyais régulièrement.
Hein, ce film.
Je le projetais à mes élèves,
police,
à mes enfants. Oui.
C'est magnifique.
Quand on le revoit, c'est magnifique. Hein. Et c'est drôle en même temps, quoi.
C'est drôle, mais en même temps, il y a toute une structure politique qui est claire.
Tout à fait.
Qui est claire. C'est ça. C'est là, moi, ce qui m'a, je l'ai revu, je l'avais déjà vu. Hein, ce qui m'a dans ce film Persepolis, c'est la clarté idéologique.
Tout à fait. Mm-hmm. Oui, elle retrace tout l'historique.
Ça dure, c'est assez long d'ailleurs. C'est deux heures et quelques.
Oui, c'est plus
là,
de 2 heures.
Mais
c'est très clair.
Toute la structure est là.
Mm-hmm. C'est limpide.
Sur ce qui a été.
Oui. Et elle a été harcelée donc jusqu'avant sa mort hein, à cause de ce film d'animation, à cause de la bande dessinée également qui est à l'origine hein, et qu'on trouve aussi donc chez Utopiran bien sûr. Alors je souhaitais au sujet de Marjane Satrapi lire ce qu'a dit d'elle Michel Perrault bon quand elle est morte de tristesse dit-on hein, puisqu'elle avait perdu son compagnon un an avant. Alors Michel Perrault dit, Marjane Satrapi n'a pas seulement changé notre regard sur le monde, elle en a renversé la hiérarchie en faisant des femmes non plus des objets de récit, mais des sujets de l'histoire. Voilà, donc elle dit ça le 19 juin. Moi, il me semble qu'Alice Mandelson fait la même chose. Hein. Elle fait des femmes des sujets et non pas seulement des objets de désir. Voilà. Donc... On garde en mémoire l'œuvre à la fois dessinée et puis également filmée hein, de Marjane Satrapi. Et puis ses propos. Elle est morte à Paris, oui. Elle disait « Le plus grand ennemi de la démocratie, c'est le patriarcat. » Et vous adhérez ?
Bien sûr.
Forcément.
Bien sûr.
Voilà.
Demandez à mes 8 enfants, vous allez voir ça.
Je n'y manquerai pas. Alors, en poursuivant chez Christophe Dauphin... On rencontre toujours, donc à grands pas, et puis je m'en excuse hein, vraiment, on rencontre la poète libanaise Joumana Haddad. Je peux vous lire simplement, alors c'est très très beau aussi, je cherche, mais comme j'ai mis des marque-pages...
Oui, on écoute un peu de musique, il fait très chaud. Merci Monique.
Sinon je l'ai.
Sera Malenyara. Voyage à Doué, moi noué, ou cocolé, congolé, boum, nanyawe. Wotiaina,
la caravane passe.
Wotia Daba,
la caravane passe.
Wotia Fulu Kima,
la caravane passe.
Les chiens à bois,
la caravane passe.
Les chiens à bois,
la caravane passe.
Et ils aboient,
la caravane passe, passe. Bon, bon, bon.
Bangoy bayou pinzelie,
bon, bon, bon.
Ya bayou pinzelie. Nibakaya,
la caravane passe.
Ton,
la caravane passe, passe. Bon, bon, bon.
Bangoy bayou pinzelie,
bon, bon, bon.
Ya bayou pinzelie,
bon, bon, bon.
Zelia boba barre,
bon, bon, bon.
Aïe, bangoy bayou pinzelie,
bon, bon, bon.
Ya bayou pinzelie.
Chers auditeurs, au 01 43 71 89 40, dommage que nous n'avons pas de caméra, car vous auriez assisté au numéro d'équilibriste Monique, qui a eu le temps de monter sur la table d'ailleurs. Je crains beaucoup pour elle, je tienne beaucoup à elle, mais il aurait fallu que je la ramasse, c'est ça. Et serait nuit à l'émission sur Radio Libertaire 89.4. Oui, on a commencé cette émission avec comme quoi le surréalisme était politique, était... non pas du côté de Jésus, Anne Coe s'en fout complètement. Là, il y a un livre c'est un petit livre d'ailleurs, c'est écrit en 33, c'est Georges Bataille qui a publié un essai, La structure psychologique du fascisme. Voilà, si des gens peuvent, ça se trouve très très facilement. Georges Bataille, La structure psychologique du fascisme. Isabelle Simon, voilà. Vous avez encore plein de choses à nous dire.
Alors, je reviens au recueil de Christophe Dauphin. Donc, à propos de la poétesse Joumana Haddad, et notamment un extrait de son livre. Retour de Lilith, que l'on trouve à la page 513 de l'œuvre, nous dit, alors Lilith, bon, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la création, Géant connaît ça très bien, donc là, c'est la première femme, celle qui en
ne
fait...
Ne soyez pas insolent avec le créateur, comme ça.
Bon, celle qui ne peut pas, enfin, qui ne reste pas au paradis parce qu'elle obéit pas, donc, il semblerait que Ève soit créée à partir de la côte, mais en fait, c'est une erreur de traduction, hein. C'est pas la côte, c'est le côté. Elle est au côté d'Adam. Elle obéit pas plus. Bon, donc, on a quand même un texte au sujet de Lilith, de la part de Jumana Haddad. Je suis Lilith, la femme destin. Aucun mâle n'échappe à mon sort, et aucun mâle ne voudrait m'échapper. Je suis la vierge Lilith, visage invisible de la libertine, la mère amante et la femme homme. La nuit, car je suis le jour, le côté droit, car je suis le côté gauche, et le sud, car je suis le nord. Je suis la femme festin et les convives. On m'a surnommée sorcière ailée de la nuit, déesse de la séduction et du désir, reine des plaisirs solitaires. Et Christophe Dauphin ajoute, elle se trouve donc associée aux sorcières, aux serpents, aux sirènes. Donc vous voilà en bonne compagnie si vous lisez Jumana Haddad. Autre Jumana que l'on rencontre dans ce recueil tout à fait conséquent, il s'agit de Jumana Mustapha, qui intervient dans le contexte de la poésie palestinienne au féminin, qui était à l'honneur au marché de la poésie 2025 l'année dernière, et donc elle a remporté un prix à cette occasion. Alors on remarque notamment le poème Griffe au pluriel, et alors je vous lis aussi un petit extrait que l'on trouve proposé par Christophe Dauphin. Elle écrit: qu'importe si on me montre du doigt, que mon nom soit fustigé, que je reçoive des gifles, que mon cœur soit lacéré. Mesdemoiselles, je vends des griffes, je les vends aux plus ravissantes d'entre vous. À moi, à moi, venez, accourez. Et elle écrit encore: je flotte dans ma peau, les hommes me prennent pour une femme, alors que je suis une petite ogresse. Donc rien que ça, je trouve que c'est
très drôle, parce que j'ai eu ce recueil entre les mains, c'est le recueil entier, sont les passages que j'avais retenus.
Ah oui, alors moi je trouve que
c'est magnifique.
Ça ferait un joli tatouage.
Oui, c'est magnifique, vous devriez vous faire tatouer les peaux, ce serait très intéressant.
Eh ben, j'y songe.
Donc,
j'ai pas fini pour le recueil.
Je continue.
Oui, c'était un donc qui n'était pas conclusif. Alors, donc, comme je vous le disais, malheureusement, j'avance à grands pas. Le recueil se clôt, mais j'ai encore quelque chose à dire à ce propos. Le recueil se clôt sur une jeune poète dont à mon avis on entendra beaucoup parler. Il s'agit de Paloma Hermina Hidalgo. Alors c'est une poésie qui est à la fois vénéneuse et très délicate, sulfureuse et puis déchirée. Elle a un parcours impressionnant, et alors je l'ai vue sur scène également à la Maison de la Poésie. Sa présence est extraordinaire, et ses textes aussi. Alors, je peux vous lire ce qu'elle dit de son travail d'écriture. L'enjeu de l'écriture est pour moi d'ordre ontologique. J'écris pour défendre ma solitude et tiens mes trois premiers livres pour des autobiographies féeriques. Le conte de fées n'est pas vrai, mais dit vrai. La parole poétique, au sens étymologique du terme, est création, chant, venu d'une source purifiée des fantasmes. La vérité n'est pas le réel, elle en est même souvent le contraire. Alors j'avais comme ça relevé des choses. Enfin bon, allez voir dans ses recueils et puis allez la voir, l'écouter, parce que elle est magnifique et impressionnante et extrêmement belle aussi, ce que j'ajouterais. J'ai encore autre chose à dire, oui, pour saluer Christophe Dauphin, parce que je trouve qu'il a un parti pris courageux. Il parle également de la condition des filles de cité. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le travail poétique? En fait, il parle de leur condition au sens où elles subissent finalement le patriarcat, elles subissent la loi des frères, la loi des pères. Et donc il les salue en tant que combattante également, en tant que représentant une parole, parce que tout le monde se souvient de Ziyad et Mouya qui avait donné lieu finalement aux émeutes de 2005, et personne ne se souvient des noms de ces filles qu'il évoque. Alors il parle de Samira Belil, de Ghofran Adawi, Sohan Benzian, Shaina Ansi ou Ansier, donc qui ont été violée forcément, tuée à coups de couteau, certaines ont été brûlées vives, hein, carrément, ou lapidées même, donc les lapidations ne sont pas très loin finalement. Et je vis dans le 93 et ça m'apparaît, je vois de plus en plus de femmes voilées, de jeunes filles très jeunes voilées, et j'en voyais aussi en survêtement et je me disais, tiens, c'est un écart, finalement c'est peut-être une forme de liberté. Et Christophe Dauphin souligne bien le fait que c'est une façon de dire, regardez, j'efface mes formes féminines, je ne contribue pas à ce qui relève du féminin. Donc je trouve ça très courageux de sa part de parler d'elle à cette occasion-là.
Puisque nous parlons de mœurs, tout à l'heure j'ai fait un petit oubli de mea culpa, puisqu'on a commencé sur le surréalisme et l'aspect politique du surréalisme. J'ai fait un petit insiste tout à l'heure en parlant de l'homosexualité qui est violemment, et c'est le cas de le dire, punie dans certains pays noirs et certains pays arabes. Là, c'est là qu'on s'aperçoit que André Breton aurait mieux fait de se taire, lorsque dans l'enquête sur la sexualité, il tient de tels propos sur l'homosexualité. Hein, voilà, c'est une parenthèse que je tenais à faire. Donc, c'est pour un soleil de femme numéro 2, les hommes sans épaules.
Oui, et alors, je ne vous l'ai proposé vraiment qu'à grands pas. Donc vous pouvez vous y plonger, et il y a énormément de détails, tout est fourni sur les biographies de chacune des autrices qui sont présentes, donc du 20e siècle au 21e siècle, sachant qu'on n'a pas encore terminé, évidemment. Je veux bien faire le lien, si ça ne vous ennuie pas, si on a le temps, avec une personne qui s'occupe de vous en tant qu'auteur et puis peut-être aussi d'autrice qui vous écoute. Donc il s'agit de quelqu'un qui a pris sa place au sein de la Société des gens de lettres depuis septembre dernier. Je veux parler d'Isabelle Sorante, qui est une personne tout à fait remarquable, et donc vous avez beaucoup de chance qu'elle vienne à s'occuper de vous. Elle a écrit de vous en tant qu'auteur, de vous auteur en général et autrice, parce que vous êtes entre de très bonnes mains si elle intervient. Alors, elle a écrit notamment Le complexe de la sorcière, donc c'est en ça que je rejoins ce qu'écrit Christophe Dauphin. Dans Le complexe de la sorcière, en fait, elle étudie elle explore finalement les chasses aux sorcières dans l'Europe du 15e au 17e siècle, et voilà ce qu'elle dit, et c'est en ça que ça rejoint ce dont on parlait. Donc, 200 000 femmes accusées sur une période de 2 siècles en Europe, sans compter celles qui mouraient sous la torture ou se suicidaient pour y échapper, sans compter celles qui étaient lynchées. La population était bien moins nombreuse qu'aujourd'hui. C'est un détail qu'on oublie lorsqu'on fait parler les chiffres, mais 200 000 accusées entre le 15e et le 17e siècle, cela signifie que l'accusation pouvait toucher n'importe quelle femme. Même si votre ancêtre n'a pas été brûlé, vous pouvez être sûr qu'elle a vécu dans la terreur. La sorcière vous regarde. Cela n'a rien de surnaturel. C'est européen. Donc quelqu'un de bien, qui intervenait le week-end dernier à propos de la diversité des éditions, donc concernant quelque chose qui contesterait Bolloré. Voilà. C'est tout ce que je souhaitais souligner.
Qu'est-ce que vient foutre Bolloré là-dedans?
Disons qu'il y a une mainmise de l'édition qui fait que la diversité est en danger. Et Isabelle Sorante ainsi que Virginie Despentes intervenaient pour s'ériger contre ce monopole au sein de Front commun. Et donc c'était à l'hôtel de Massa le 26 et le 27 juin. Voilà. Alors précipitez-vous chez vos libraires pour acheter toutes ces œuvres-là.
Le soufi manipule les métaphores, le poète les libère. Bon, c'est une phrase d'Abdelkader El-Janabi, qui a fondé les années 73, il y a deux fois la Yéné, ah, 75. Le désir libertaire, le surréalisme arabe à Paris, édition Asymétrie, 2018, et je vous encourage à lire, journal inactuel de l'oubli, d'après l'éducation d'El-Janabi, édition Asymétrie, en 2024. Bah, c'était un plaisir de voir. Le problème de Bolloré est un problème beaucoup plus large que ça.
Bien sûr.
Voilà, beaucoup plus large que ça.
Non, mais je tenais à souligner,
oui, bah, je vous le dis aussi,
l'œuvre d'Isabelle Sorrente, qui est vraiment quelqu'un d'admirable, voilà, et d'engagé.
Maman, on va remercier Monique, qui a résisté malgré cette canicule qui nous a envahis. Merci Monique. Et j'ai admiré encore une fois votre souplesse d'acrobate. Oui, c'est ça, faites la grimace. Oh. Merci. Merci Isabelle Simon, c'était un plaisir.
Merci.
ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না ঘরে চুরি করলে চলবে না বাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না
ওয়ে চায়োবে নেয়োবে চাবা ইয়োবো মুমবুঙ্গু মুমবুঙ্গা গেনি গেনি পাতা পাতে ইবুত ইবুত কা 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 হায়েন্দ হায়েন্দ না শিরুনরুঙ্গা ড্রালা ড্রালা বোতো বাকাস Sung desh, desh le tund mukuti, mukuti mupeli, mupeli atate bosege, bulunzabi. Zebia ye pipi, na bendu yo, yo mukok, mukoko, mukoko.
ভবেন্দ্র ভব পাগলা ছিল ভবেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র পেল না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না
দবাইয়ে ভাইয়ে শীল
nanya kuchip.
Abel kare tuli.
Chibi tundi, tundi. Mangongo deka, deka. Mukedi tongo lo mebeng. Metongo ponja mbamba. Liye humulanga. Le chama chibi mabakuku. Le bolungongo lepinga.
Na 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 chulbe na go chulbe na.
Mame, mame, maïa ko, za rondona, muchihitata, de ibo misengi, misengi mwana ngendio.
Pas de machin dans un truc muche où y avait pas de vertu et de la paluche. En voilà, en veux-tu, ce vieux guignol ou ma parole. En 1925, on faisait joujou en notre sol, histoire de prendre du grain. A disparu au fond de ma rue, comme disparaît tout mon passé. Comme passé lasse les vieilles passions pour faire la place à ma chanson. Monsieur, mon passé, laissez-moi passer. J'ai comme un rancard qui me rend bizarre. Comme les gens pressés qui veulent pas causer. Pour pas faire d'histoire, on changera de trottoir. J'ai dans la tête je ne sais plus de 1925, je ne sais plus qui continue à faire tourner le moulin. Dans le bric-à-brac où se fabriquent les idées qui font des couacs chaque fois qu'on veut se rappeler. Ce je ne sais plus qui vous a plu en 1925 et qui n'est plus qu'une fleur perdue parmi les tas de chagrins d'un vieux passé qui n'est pas passé malgré le banjo qui se gratte le dos. Et puis le guignol ou ma parole, on venait paumer ces belles années. Monsieur, mon passé faudrait bien passer. J'ai comme une envie d'aller faire ma vie. Guignol ou banjo, je te ferai bien la peau. Je suis peut-être qu'une cigale, mais je t'emmène au bal.
Monseigneur, ont soulevé les portes. Des voleurs aériens travaillant du frisson vont régler le problème de la surproduction. Dans l'ombre de deux toits, aux limites du ciel, ces pêcheurs de la nuit ont la chute mortelle. L'araignée capitale digère son bien-être, accroupie sur son coffre en comptant ses valeurs. Elle joue avec l'argent, la grève et les chômeurs. Pendu à son fil dans ses chaussons de corde, se jouant des serrures de la moralité, le voleur s'insinue dans ton intimité. coffre allemand deviendra inutile. Le pauvre saura prendre au lieu de mériter. Les petits épargnants seront canonisés. En attendant cette aube qui tarde à se lever, le voleur a souvent la tâche difficile. Marginal, anonyme, surveillons la vigile. Une main dans le sac, l'autre dans le collet. Des pinces, monseigneur, ont soulevé les portes. Des voleurs aériens travaillant du frisson vont régler le problème de la surproduction. Monseigneur, ont soulevé les portes. Des pinces, monseigneur, ont soulevé les portes. Voleur.
Voleur.
Attention. Hé. Voleur.
Voleur.
Attention. Hé. Voleur.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
T'es tout seul, tu peux plus supporter ni ta gueule, ni les gueules d'à côté. T'es tout seul, t'en as marre du bourdon des tilleuls, de ta vie de garçon. Alors tu en voisines un beau soir, qui te tue à te foutre l'espoir, à te faire des appels de bonheur. C'est le feu vert, tu pars à 100 à l'heure. Et tu dis je t'aime, mais ce n'est qu'un mot. La tarte à la crème des romans photos. Auto. T'es tout seul dans ton trac quotidien et pagnol, fait pour une vie de chien. T'es plus seul que le plus solitaire, tu t'engueules avec toute la terre. Alors tu envoies une extra, la vertu, le charme, etc. Un cadeau que tu as décroché, un radeau où tu peux t'accrocher. Et tu dis je t'aime, mais ce n'est qu'un mot. La tarte à la crème, des romans photos, des romans photos. T'es tout seul dans ta voiture balai, mais mon œil, t'es 3 milliards qu'il est. T'es plusieurs, tout le monde partout, t'es le meilleur, le plus grand, le plus fou. Tu le sais, tu le crois, t'es chéant. Tu ferais des enfants au néant. Tu t'envoles, mais il y en a toujours une qui t'affole en te montrant la lune. Et tu dis je t'aime, mais ce n'est qu'un mot. La tarte à la crème. Des romans photos. Et tu dis je t'aime, mais ce n'est qu'un mot. La tarte à la crème. Des romans photos. Des romans photos.
Nous
rigolerons ensemble, nous rirons, nous tiendrons tous les coups. Fuyons la tristesse et les mauvais trucs
à la mode
de camp.
Défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague, venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères. Ils tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la la.
Si ça se trouve, le couple en face, si blond, si beau, c'est de la frime. Si ça se trouve, le couple à gauche, de vieux corbeaux, c'est de l'estime. Si ça se trouve, l'appel au bois dormant, maman, cuvée sa cuite. Si ça se trouve, l'été pas beau, le prince charmant, l'avait de l'arthrite. Si ça se trouve, Si ça se trouve au coin du bois, le loup attend le chaperon rouge. Si ça se trouve pour faire l'amour tout simplement dans quelques bouges. Si ça se trouve, la comédie qu'on joue petit n'est pas divine. Si ça se trouve dans les nuages, le grand esprit c'est une turbine. Si ça se trouve, si ça se trouve, elle est déjà trois fois grand-mère, cette petite fille. Si ça se trouve, dans son moulin il jouait Schubert, Maître Corneille. Si ça se trouve, quand il a chaud dans son enfer, le pauvre diable. Si ça se trouve, il monte là-haut faire un poker avec le dab. Si ça se trouve, si ça se trouve, le président Mao est mort depuis 10 piges. Si ça se trouve, la rose rêve quand elle s'endort dessus sa tige. Si ça se trouve, caché tout au fond de mon dos, il y a les ailes. Si ça se trouve, la nuit elle danse le tango, les hirondelles. Si ça se trouve, si ça se trouve, les bombardiers dans le ciel blanc ne feront plus l'hiver. Si ça se trouve, ils ne joueront plus les enfants aux militaires. Si ça se trouve, ma chienne beige, ma petite fille, mon espérance. Si ça se trouve, tu m'as rendu toutes les billes de mon enfance. Ça se trouve.
Carreau. dit je suis qu'un blaireau. Et en dehors de l'apéro, je sais faire que mon numéro. Je suis resté seul sur le carreau.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans IA, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et tous, Nicolas au micro et pas Serge au micro avec moi pour animer cette émission. Serge, à mon avis, il est en vacances. Moi, je suis pas sûr, je me demande s'il n'est pas parti en Camargue.
Ah, tu
Mais,
crois ouais, peut-être. Hein.
Quand j'y vais de temps en temps, je le sens un peu envieux. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il nous écoute. Voilà, donc Nicolas en studio, Monique en régie. Et je ne suis pas seul en studio, puisque à mes côtés, il y a Yanis et Victor qui prendront peut-être la parole le moment venu, s'ils le souhaitent. Bienvenue donc dans ce trou noir. Nous aurons de nombreux invités, puisque c'est un trou noir, on va dire, spécial festival de l'été. Des invités qui seront au téléphone et pas tous en même temps. Je vous donne un petit peu le sommaire de ce que nous allons faire et vous faire partager aujourd'hui. Alors tout d'abord, comme nous l'avons fait déjà à deux reprises, nous serons en ligne avec notre compagnon Guillermo, militant internationaliste de l'Union des travailleurs et travailleuses anti-autoritaires, et il va nous entretenir de l'évolution du soulèvement en cours en Bolivie. Et puis, comme Guillermo est aussi un des acteurs du Maquis de Minerve, il nous informera sur ce qui va se passer à l'occasion des rencontres du Maquis pour l'émancipation, rencontres qui vont se tenir à Minerve, donc dans le département de l'Hérault, du 8 au 13 août prochain. Et puis, on va continuer dans les festivals, puisqu'ensuite, nous serons en ligne avec Bernard du Cercle Jean Barouet de Bordeaux, et par ailleurs, membre très actif du collectif de programmation et d'organisation des Reclusiennes. Lesquels se tiendront à Sainte-Foy-la-Grande, ville natale d'Élisée Reclus, c'est en Gironde, et les Reclusiennes, ce sera la 14e édition, ça se déroulera du 15 au 18 juillet. Ensuite, nous serons en ligne avec Jérôme, qui lui est du groupe Alpanar de la Fédération anarchiste, il est en Haute-Savoie, et il nous déclinera le programme de la 2e édition de la Marseillaise, qui se tient à Marsella les 13 et 14 juillet prochains. Enfin, nous vous donnerons quelques informations sur les animations de la librairie Publico pour ces premiers jours de juillet. Et puis, pour terminer aussi, des nouvelles sur différentes mobilisations à venir. Avant de commencer ce programme et d'accueillir Guillermo au téléphone après une première pause musicale, nous voulions saluer la mémoire de Thierry Poré, qui est décédé dans le courant de la semaine passée. Thierry Poré était un compagnon de la Fédération anarchiste et il a longtemps été animateur sur Radio Libertaire de Blues en Liberté. Monique et Serge ont bien connu Thierry, et ce depuis les années 70, au travers de différentes aventures militantes, syndicales, radiophoniques, auxquelles ils ont participé de concert. Freddy Gomez, autre compagnon de route, vient lui aussi lui de publier un texte dans lequel il évoque quelques souvenirs avec Thierry, et nous invitons à lire ce texte complètement donc dans la revue en ligne de Freddy qui s'appelle À Contre-temps. Donc là, c'est le dernier article publié, et je vais vous en lire le premier paragraphe pour évoquer un petit peu qui était Thierry Poré. Donc je lis le premier paragraphe du texte de Freddy Gomez qui est intitulé « Thierry Blues ». Il y a des disparitions qu'on attend car on les sait inéluctables. C'était le cas pour celle de l'ami Thierry Poré, depuis peu hospitalisé dans une entité bordelaise de soins palliatifs.